Parce que nous voyons ça avec un peu de recul. Nous nous rendons compte à quel point nous avons évité à cette communauté la guerre civile pendant plusieurs générations. Et il y a évidemment là quelque chose de particulier à ce que j'appellerais la rencontre entre notre identité juive, nous qui venons de diasporas très différentes et qui nous étions retrouvés en France comme terre d'asile, si j'ose dire, et d'autre part l'esprit français, la culture française. Peut-être que si M. Lévinas était encore parmi nous ce soir maintenant, il y retrouverait aussi une des dimensions de ce qu'il a appelé l'école de Paris. Mais ce que je voudrais dire, c'est que très rapidement, en Israël déjà, et aussi dans notre communauté, on a diagnostiqué qu'il s'était passé en France quelque chose de particulier. Encore une fois, je voudrais vraiment vous dire ça, à la manière des Montflègues, en poème, la capacité de vivre comme frère, pas seulement avec des mots, mais vraiment avec de la fraternité. Et cela, nous l'avons appris des éclaireurs, et nous le devons d'abord à Castor. La deuxième question. Vous devinez à quel point il faudrait beaucoup plus de temps pour raconter, ne serait-ce que sur une anecdote, comment cela peut être possible. La deuxième équipe, c'était celle de l'UGF, des étudiants. Et il m'est vraiment impossible de citer tout ce à qui je dois, ce que je vais dire maintenant, que je dois de à l'UGF, la rencontre du peuple juif et sa connaissance. Nous étions, j'allais dire d'un siècle, en tout cas d'une génération, où nous connaissions les communautés juives. Et ces communautés étaient très spécifiques, chacune avec son génie propre. Mais en tout cas, de ce côté de l'Occident de l'Europe, nous étions déjà habitués, surtout depuis l'émancipation, à nous considérer comme communauté confessionnelle. Et c'était un engagement qui n'était pas simple et qui avait son propre héroïsme. Communauté des Juifs vivant en France, mais très rapidement se connaissant comme des Français d'origine juive. Et cette vie de communauté était d'une certaine manière aussi une vie de résistance avant le temps de la guerre. À l'URJF, en tout cas pour nous qui vivions en Afrique du Nord, imaginez qu'en Afrique du Nord, nous nous considérions comme Européens, comme Français, c'est-à-dire Européens. Alors nous étions des Africains, nous étions des Asiatiques, puisque nous sommes d'Israël. Mais au fond, ce qui nous est arrivé, c'est que, ayant été l'Asie mineure, mais c'était quand même l'Asie, depuis très longtemps, après un voyage en Afrique, nous nous sommes pris pour des Européens. Et très, très sérieusement d'ailleurs. Mais en tout cas, l'UEJF a commencé pour moi, et je n'ai pas été le seul, une découverte très profonde de ce qu'était le peuple juif, indépendamment de notre situation sociopolitique comme membre de telle ou telle communauté israélite dans le pays. Et comme je disais, pour moi, cette époque qui a été aussi conjointe de celle des éclaireurs, mais qui existait pour elle-même, si j'ose dire, me mène de revenir à citer au moins une trentaine de noms de juifs que j'ai connus, qui n'étaient pas de la même origine que la mienne, et qui m'ont transmis ça, qui m'ont donné un indice d'existence présente, d'existence, de présence actuelle, ce dont nous parlions depuis des siècles, de dispersion, le peuple juif, les mots ayant un sens simple, et c'est là que j'ai connu cette amitié qui a été très précieuse pour moi et pour le travail que j'ai pu faire dans la communauté, l'amitié d'Adam Loss, grâce à qui énormément de choses ont pu être possibles, parce que nous avons su jeter un pont de fraternité juive au-delà de toutes les problématiques idéologiques. Si je rappelle cela, la fraternité des éclaireurs et la fraternité des étudiants de cette époque, c'est pour dire aussi à quel point nous ressentons, bien de cette génération, que la communauté a besoin de ces vertus-là. Parce que ce n'est que lorsque on arrive à résoudre des problèmes très épineux, mais à les résoudre parce qu'on travaille en équipe fraternelle, que ça cela est possible. Et je crois que cela fait partie de ce miracle de la communauté française. La troisième équipe est celle du TEG et du centre communautaire. Et là, j'ai été enrichi de la découverte de ce qu'était l'engagement éducatif. Bien sûr, le mouvement des éclaireurs, qui est ce mouvement de jeunesse, et qui avait aussi un engagement éducatif. Mais là, il s'agissait d'autre chose. Il s'agissait, et je ne sais pas, seuls ceux qui ont vécu ces différentes expériences, je l'ai compris dans les nuances, mais je vais essayer de le décrire rapidement. Il s'agissait de donner à la communauté, en plus des institutions indispensables au niveau administratif, et certains dont les nôtres sont occupés aussi, en plus des institutions d'enseignement, il s'agissait de donner l'atmosphère de la communauté. Je dirais très exactement cela, une atmosphère qu'en tant qu'éclaireur, nous avons eu le privilège de connaître en laboratoire. Mais lorsque le moment a été venu de créer cette atmosphère au niveau de la communauté tout court, alors est apparue et existait cette équipe du DEJ et du centre communautaire. Je sais que ça a fait des petits dans beaucoup d'autres centres communautaires. Et c'est à l'époque qu'a existé cette charnière avec le Fonds social qui nous a permis de donner à la communauté, en tout cas, son atmosphère. Et elle était concrètement communautaire et pas seulement ce que l'on peut connaître. Et c'est aussi indispensable lorsqu'on fait partie d'une association. Une association et un mouvement, une association et une communauté, ce n'est pas forcément exactement la même chose. Tout cela avait été vécu ensemble. Et puis, quatrièmement, en même temps et chronologiquement un peu successivement, l'équipe du QR et de Rache. Alors vous comprenez à quel point j'étais ému quand je vous ai dit tout à l'heure que j'étais impressionné parce qu'avoir la chance, le privilège de participer à une, deux, trois équipes, mais quatre, il faut le faire, d'autant plus que chacune de ces équipes était double. Et là, c'est là que s'est posé le problème de la formulation à l'échelle de la communauté de ce qu'est le sujet duquel je dois vous parler, et je le fais brièvement parce qu'on n'a pas le temps ce soir. Mais nous aurons le rendez-vous de l'éternité pour ça, du ressourcement dans la communauté. Alors, le petit exposé sur ce premier point que je voudrais vous présenter, je voudrais donc le dédier à ces quatre équipes et à tous ceux et à ceux qui centralement ont été l'âme de ces équipes. Et ça consistera d'abord en une remarque. C'est que je pense qu'il faudra un jour écrire l'histoire du retour aux sources. C'est un fait de civilisation qui s'est produit. Mais ce fait est déjà un fait existant. Je veux simplement me borner à une remarque. Quand à ce fait du retour aux sources que connaît le jeunesse contemporain et qu'il a centralement connu à partir, je pense, il y a une quarantaine d'années déjà, en France. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mouvement de tshuva. On parle de retour aux sources en général. Et simplement, je dirais, sous forme de remarque, ce que mon expérience, à travers ces quatre engagements, m'a enseigné. Il y a un écueil duquel il faut se garder. Parce que nous avons un très long passé. Ce passé a été très riche. Et par conséquent, nous avons des références multiples dans le retour aux sources. Je crois que l'écueil duquel il faut se garder, c'est que cette générosité de la recherche du passé afin que l'avenir soit plus grand, bute sur des formes archaïques du passé, sur des formes caduques. Lorsque les réussites du passé ont été trop particulières, trop spécifiques, alors ils ont vécu d'une vie très intense, parce que précisément elles ont été particulières et spécifiques. Mais lorsque elles masquent la source la plus antérieure, la plus commune, et nous avions dans notre vocabulaire d'Orsay par exemple, cette expression de l'unanimité anonyme, L'unanimité ne peut être qu'anonyme. Les tribus ont une particularité nommée. La collectivité ne peut être qu'anonyme parce qu'elle est unanime ou n'est pas. Et nous étions aidés par le jeu de mots français anonyme, unanime. Je crois qu'est là le principal problème. Nous sommes témoins aujourd'hui d'énormément de revenir en retour qui parfois sont bloqués par des formes archaïques. Et cette énorme générosité de vie arrive à ressusciter des cadavres. On arrive à réanimer des formes caduques. Et je crois que c'est là qu'est l'écueil. Il faut revenir à l'unanime de tous, c'est-à-dire au plus antérieur. Or, le plus antérieur pour nous les Juifs, c'est l'hébreu. Je vais donner un petit exemple de ce qui s'est passé à Rachi. Dans nos études et les prospectives du programme, et nous tenions à ce que toutes les langues juives aient leur laboratoire à Rachi, qu'il y ait des salles d'études de judéo-allemand, de judéo-espagnol, dans chacune de leurs nuances, et Dieu sait que c'est un monde très riche, de judéo-arabe, quand c'est possible, des langues des juiveries, les ruderias, comme on disait en espagnol. Et c'est pas un terme péjoratif, c'est ça, les communautés juives. Tout cela est un très grand enrichissement, à condition qu'il y ait centralement la chose commune, c'est-à-dire l'hébreu. Et lorsque je dis hébreu, et le grand Massira le dira avec moi, je suis sûr, c'est pas seulement la langue qu'on véhicule, mais tout ce que ce véhicule véhicule. Il m'arrive souvent de dire aux étudiants en Israël, quand vous commencerez à rêver en hébreu, c'est gagné. Et parce que c'est là qu'est la clé des rêves juifs. Or, une histoire nous est racontée à ce sujet. C'est l'histoire des enfants de Jacob. Et là, je voudrais me référer à une des intuitions profondes que nous avons formées, surtout à l'union des étudiants, de savoir, et c'est pas simple, que tous les fils de Jacob sont fils d'Israël. Or, les fils de Jacob, c'est des tribus différentes. Après le temps des patriarches, et je me réfère aux chapitres 37 et 38 de la Genèse, il y a un blocage dans la suite des engendrements des Tolados d'Israël. Avec qui trouver pour que la suite de l'histoire s'engendre à partir du moment où l'identité Israël est déjà là, parce que Jacob a mérité le nom d'Israël. En d'autres termes, avec qui marier les fils de Jacob pour que l'histoire continue. Chaque tribu a un avenir possible de tout Israël à travers lui. Mais deux tribus ont été par excellence les deux grandes tentatives de l'histoire d'Israël, je dirais très schématiquement. La première, c'est l'identité de Joseph. La tentative de Joseph, c'est de chercher femme et donc à venir à l'extérieur d'Israël, là où est la civilisation ambiante. Et Joseph, comme vous le savez, tombe dans les bras de la femme de Potiphar. Il se sauve des bras de la femme de Potiphar, dit le Midrash, lorsqu'il arrive à comprendre que ses enfants ne ressembleraient plus à ses parents. Puisque, comme vous le savez, d'après la loi juive, les enfants de Joseph et de la femme de Potiphar auraient été égyptiens. Si un psychologue lisait ce Midrash, il nous expliquerait qu'il y a eu un problème d'inhibition, puisque le Midrash dit, quand sa fille est arrivée, il a vu la figure de son père. Mais le rabbin du Midrash ne parle pas d'inhibition, il parle de lucidité. Il a vu que son fils n'aurait pas la même barbe que son père. Et alors, il s'est sauvé, et in extremis, en abandonnant son déguisement. Ça, c'est la première dimension possible, la tentation de l'extérieur. En même temps, la Torah ouvre une parenthèse et nous raconte la tentative de l'engendrement à travers Judas. Et c'est là que j'arrive à mon propos, c'est le chapitre 38. On nous dit que Judas, lui, a une toute autre solution. C'est la recherche dans l'antérieur, pas à l'extérieur. Il y avait, sur le pays de Canaan, des justes cachés. Sur la terre de Canaan, des justes cachés. Et la Torah nous raconte que Judas a contracté alliance avec un de ses notables, disons, qui s'appelait Shua. Et il va épouser Bat Shua, la fille de Shua, qui était notable de la civilisation de Canaan, qui serait de l'autre en place. C'était donc les réussites de l'intérieur de la terre, et non pas, comme en Égypte, l'extérieur de notre terre. Et puis voilà que ça ne marche pas, ça mène à des impasses. Il y a un premier fils qui s'appelle Er, qui ne veut pas avoir d'enfant. Un deuxième fils qui s'appelle Onan, qui ne veut pas avoir d'enfant, vous connaissez l'histoire. Et un troisième fils, il y a une controverse chez les commentateurs, qui se trouve à un endroit qui s'appelait Arzim, le club méditerranéen du Nord. Et puis, d'autres commentateurs expliquent que c'était un enfant avorton impuissant. Alors, Judas se trouve dans une impasse totale. Stratégie très très compliquée. Si j'avais le temps, on y remise en détail. Mais finalement, c'est Tamar, la femme des enfants de Judas, qui donnera à Judas l'enfant de la fécondité de la promesse qui mènera à David, l'ancêtre du Messie. Or, le Midrash dit que Tamar était la fille de Shem, Shem, l'ancêtre de la lignée. C'est-à-dire, Judas, prenant une femme, capable d'être sa femme, mais trop différenciée, caduque, vous retrouvez le vocabulaire de tout à l'heure, ça met les engendrements dans une impasse. Il faut qu'il revienne à l'intérieur le plus indifférencié pour que la fécondité reprenne. Et c'est pourquoi de Tamar, qui est appelée la fille de Shem par le Midrash, Judas peut enfin avoir une descendance. Vous vous souvenez du verset, lorsque Judas dévoile l'histoire qui était dans les coulisses et que c'était elle qui avait raison, Tamar, Judas dit sa déclare lui-même qu'elle a été plus juste que moi. Or, vous savez que c'est précisément le palmier, Tamar, qui est le symbole du juste, d'après la Bible. Tzadik Katamar Iflah. Ça veut dire qu'il cherchait l'identité du juste, et bien il n'a pu la trouver que lorsqu'il est remonté à, j'allais dire, au sémitisme le plus ancien, mais Shem, c'était l'ancêtre de Hébel, nous sommes des Hébreux, à l'hébraïsme le plus ancien, à l'échelle de la collectivité tout entière. Si le ressourcement est fécond, c'est surtout à cette condition-là, lorsqu'il est le plus indifférencié. Sinon, il ne s'agit que de reconduire des réussites du passé qui seront certainement des échecs pour l'avenir. C'était le premier point. Et j'en arrive aux deux autres équipes avec lesquelles je collabore aujourd'hui en Israël. C'est moi, j'ai eu le temps, c'est M. Tapio, qui nous a raconté l'histoire de Marianot et celle du Merkaz Yair, qui a été ouvert en extension de Marianot à Jérusalem l'année dernière. Et nous avons déjà fondé une section à Tel Aviv il y a un mois et demi. Et d'autres sections dans le pays sont en préparation, comme nous disions avec Adi tout à l'heure. C'est aussi la méthode française, j'en dis, qui fait des petits dans le pays. Et là, je voudrais très rapidement citer un texte de la Gemara. Pour tout simplement indiquer, non pas expliquer, mais indiquer comment le propos du ressourcement finalement mène aussi à celui d'un engagement qui va en Israël même pour nous. Il y a dans la Gemara de Brachot une discussion entre deux grands du Talmud, Rabbi Abraham et Rabbi Yoshua ben Lévi, concernant l'ordre de la prière du soir. Vous savez que l'ordre de la prière, le matin et le soir, nous avons entre autres deux mitzvot qui se suivent. D'abord le Kriyat Shema, la lecture du Shema, et ensuite la Tfila, la prière proprement parlée. Tant que le temple existait, ces deux mitzvot étaient complètement distinctes. Elles avaient leur liturgie propre et leur horaire propre. Lorsque le temple a été détruit, une question s'est posée. À qui donner l'intention de la prière? Vers qui prier? Ce qui en est resté d'ailleurs, c'est le fait que pour prier, on se tourne vers l'endroit du temple. Mais tant que le temple existe, la réponse était très simple. La prière était adressée à celui à qui le grand prêtre, dans le temple de Jérusalem, rendait le culte d'Israël. lorsque le temple a été détruit, la référence d'unité a disparu. Et il y a eu une grande crise. Alors on a décidé de joindre les deux mitzvot. La dernière indication du texte du Kriyat Shema, c'est le rappel de la sortie d'Égypte. Le rappel de la sortie d'Égypte. Et immédiatement après, on commence la prière. Ce qui signifie que on n'a pas cherché une définition philosophique, théologique de Dieu devant qui l'on prie, mais une définition historique qui puisse être unanime, commune à tous, quelle que soit la sensibilité idéologique ou intellectuelle ou même politique. La sortie d'Égypte. On prie devant celui qui était revenu dans l'histoire pour faire d'Israël la nation sortie de l'exil d'Égypte. Or, en ce qui concerne l'ordre de la prière du matin, il n'y avait pas de controverse. La sortie d'Égypte est comparée à la sortie de la nuit. Lorsque nous sortons de la nuit, la délivrance est derrière nous. On peut s'y référer sans qu'il y ait contradiction spirituelle. Je peux parler d'une expérience que j'ai déjà dans mon passé. Il nous a délivrés, nous pouvons prier devant lui. Mais le soir, il y avait une difficulté d'ordre spirituel. Parce que le soir, la délivrance n'a pas encore eu lieu. On va rentrer dans la nuit. Il peut y avoir un doute. Est-ce qu'on méritera cette délivrance? On peut être sûr que lorsqu'on est vraiment sorti de la nuit. Et il y a donc une controverse. Rabbi Yochanan, Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il dit, l'ordre des prières doit être le suivant. Le matin, Shema, Tfila. Ensuite, Tfila de Mincha. Ensuite, Tfila de Arbit. Et après seulement, le Kriyat Shema du soir. Ça, c'est Rabbi Yoshua ben Levi. On ne fait pas comme lui. Rabbi Yochanan dit non. On doit se baser sur l'expérience de la délivrance, même lorsqu'elle ne fait que commencer, comme si elle avait déjà complètement été achevée et réussie. Or, la discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi porte sur deux méthodes talmudiques. Ils discutent, je vais dire en hébreu pour me retrouver en français, d'ailleurs c'est l'araméen, mais ils discutent, il va être ma crainte. C'est-à-dire, si tu veux, je te démontrerai mon opinion par l'appel au verset, par l'érudition du verset. Si tu veux, je la démontrerai par un raisonnement. Et la Gemara cite ces deux raisonnements que je vous rappellerai très rapidement. Rabbi Yoshua ben Levi dit, puisque ce n'est que le matin que la délivrance est acquise, le soir elle n'est pas acquise. Rabbi Yochanan dit, elle n'est acquise que le matin, mais le soir elle a déjà commencé. Ça c'est le raisonnement. Et l'appel au verset, il est écrit le même verset pour les deux, en te couchant et en te levant. De même qu'en te levant, tu sors du lit, tu dis Kriyat Shema. De même en te couchant, tu rentres au lit, tu dis Kriyat Shema. Ça c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Alors que Rabbi Yochanan dira, non, en te levant, comme on te couche. En te levant, d'abord le Shema, ensuite la prière. En te couchant, d'abord le Shema, ensuite la prière. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas trancher entre ces deux thèses, ni par l'idéologie, le raisonnement, ni par l'érudition, le retour au verset. La tradition a tranché. La halakha est comme Rabbi Yochanan, c'est-à-dire, et ils le font de la manière suivante, qui mérite d'être dit Ben Aharon Abba, fils du monde à venir, celui qui joint sa prière au Kriyat Shema du soir, c'est-à-dire celui qui, alors que seuls les premiers signes d'un peut-être sont apparus, s'engage quand même comme s'il était au matin. Je pense que ceci est clair. Ça veut dire qu'il y a des moments importants, j'allais dire cruciaux, mais puisqu'on parle français, c'est pas grave. Donc cruciaux dans l'histoire. Et où ni le raisonnement, ni l'érudition ne peuvent permettre de trancher. Ce qui peut permettre de trancher, c'est l'engagement de la foi. Et c'est la raison pour laquelle je crois que dans ces deux dimensions, nous devons nous brancher sur la collectivité la plus indifférenciée, la nation, nos tribus, nos juiveries, notre engagement personnel ne retrouvera son authenticité que s'il est lié à tout Israël tout entier.